Ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler des dangers de l'occultisme. Mais on ne peut pas aborder cette terrible réalité sans parler du fait qu'il y a un enjeu pour l'être humain qui naît. Chaque être humain qui naît, il y a un enjeu pour lui, et cet enjeu, c'est le devenir de son âme. Et on peut se poser, pour chacun d'entre nous, que va devenir ton âme ? La parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, donne une réponse catégorique. Tous ont péché, tous sont des pécheurs et sont privés de la gloire de la présence de Dieu. Nous naissons en étant des êtres destitués d'une gloire qui était la nôtre auparavant. Nous naissons pécheurs, c'est-à-dire rebelles par nature à Dieu. Nous naissons comme étant des êtres qui tournent le dos spontanément à Dieu. Et la parole de Dieu, toujours dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort, la terrible sanction de cet état de cœur, de ce poison qui est dans l'être humain, s'appelle la mort. La mort fait partie du programme de l'être humain. D'abord la mort physique, mais aussi la mort éternelle. Qu'est-ce que la mort éternelle selon la Bible ? C'est passer son éternité dans un endroit où il y a une privation complète de Dieu. Pour l'éternité, c'est comme une prison éternelle, sans Dieu. Elle est froide, elle est glacée, sordide, cette prison. C'est la prison de tous les êtres qui sont des réprouvés, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont rejetés à cause de leur rejet eux-mêmes du Créateur. Pour avoir tourné le dos au Créateur, pour avoir refusé sa grâce, ils subissent ce que la parole de Dieu appelle le châtiment éternel. Évidemment, c'est une condition difficile pour l'être humain, mais la Bible nous donne un message d'espérance, un message d'espoir, en nous disant que c'est par Jésus-Christ et en Jésus-Christ que l'homme peut être sauvé. La Bible dit encore dans Actes 4, verset 36, qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions être sauvés, que ce soit sur la terre, que ce soit dans le ciel, si ce n'est le nom de Jésus. Il est le pont entre Dieu et les hommes. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible nous dit qu'il a réconcilié le monde avec Dieu et quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés, retrouve la communion avec Dieu et reçoit la vie éternelle. La réponse est donc l'Évangile, l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile. Dès la Genèse, on rencontre Satan, le diable, appelé aussi dans la Bible le serpent ancien. Et cet être, il a voulu détruire la créature de Dieu, l'homme fait à l'image de Dieu, à la ressemblance du Créateur. Il a réussi son entreprise de déstabilisation en provoquant la rébellion et la chute de l'homme. L'homme a transgressé alors les lois divines, il s'est rebellé contre son Créateur et il lui a tourné le dos. C'est le premier pécheur, Adam. C'est le premier péché, la première rébellion de l'homme. Et aujourd'hui, l'enjeu est donc à qui l'homme va donner son adoration. L'enjeu, c'est à qui l'homme va donner son allégeance. Il n'y a pas deux voies. Jésus nous a montré qu'il n'y a pas deux voies. Dieu, dans sa parole, dans toute sa parole de la Genèse à l'Apocalypse, nous montre qu'il n'y a pas deux voies. Il nous dit dans le Deutéronome, « J'ai mis devant toi la vie ou la mort, et le bien ou le mal. » Et il nous dit ce précieux conseil, « Choisis la vie afin que tu vives. » Et il nous dira encore, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de solution intermédiaire. Ou bien on est du côté de Dieu, ou bien on est du côté du diable, ou bien on est du côté de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous à la croix, ou bien on est du côté du mal. Il n'y a pas de voie intermédiaire, il n'y a pas de milieu. Cela nous amène au sujet qui est aujourd'hui les dangers de l'occultisme, parce que dès les débuts de l'Ancien Testament, en dehors de la chute, en dehors de cette entité qui était présente près du jardin d'Éden, de cette entité qui était présente pour séduire l'homme et la femme, eh bien nous voyons dès les débuts de l'Ancien Testament des peuples qui habitaient la terre qui avait été promise par Dieu à Abraham. Il y avait des peuples qui habitaient là, des peuples impies, des peuples incrédules, des peuples qui rejetaient Dieu, des peuples dont la condamnation était déjà écrite longtemps à l'avance parce qu'ils n'allaient pas se repentir, à l'exception de quelques personnes comme cette femme Rahab, la prostituée, à Jéricho. Et ces peuples avaient déjà ouvert des portes à des puissances occultes. Ces peuples avaient déjà ouvert des portails dans l'obscurité, dans les ténèbres. Ils avaient ouvert déjà leur cœur à des puissances invisibles, à des puissances mystérieuses, à des entités qui ne demandaient que cela. Et c'est pour ça que si nous lisons maintenant dans la parole de Dieu, Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14, nous trouvons ici un passage qui est la base de la compréhension du monde occulte. Et Dieu ne va pas nous donner des détails sordides. Dieu ne va pas nous donner des détails techniques sur le monde occulte et sur la manière dont la magie se pratique, mais il nous donne les clés de ce que doit être une vie dans la terre promise et dans la plénitude de Dieu également. Lorsque vous aurez, alors c'est Deutéronome chapitre 18, verset 9, « Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur ceux qui agissent ainsi, et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Pour vous, conduisez-vous de manière irréprochable à l'égard du Seigneur, votre Dieu. Les peuples que vous allez déposséder écoutent les conseils de ceux qui pratiquent la magie ou la divination. Le Seigneur, votre Dieu, vous interdit d'agir ainsi. » Ce texte nous éclaire sur les pratiques de ses habitants. Il est question de sacrifice humain, ce qui est le paroxysme de ce qui arrive quand on adore le diable. Il est question de magie, il est question de divination, il est question d'enchantement, il est question de jeter le sort, il est question de sorcellerie, il est question de consultation de ceux qui évoquent les esprits, ce qu'on appelle des médiums, ce qu'on appelle des voyants. Il est question des 10 heures de bonne aventure, ce qui représente la cartomancie, c'est-à-dire la lecture de l'avenir à travers des cartes, ou la chiromancie, la lecture de l'avenir à travers les lignes de la main. Il est question ici d'occultisme, et la Bible nous dit que c'est à cause de ces pratiques abominables que le Seigneur allait déposséder ces habitants-là de cette terre, de leur terre. C'est à cause de cela qu'ils allaient être exterminés, à cause de leurs pratiques occultes dont ils ne se sont pas repentis. Il est question ici donc de l'occultisme. En latin, l'occultisme signifie ce qui est secret, ce qui est caché, ce qui est sombre, ce qui est mystérieux, ce qui est dissimulé. L'occultisme désigne ces phénomènes qui transcendent les cinq sens, qui dépassent nos cinq sens, qui dépassent notre raison, des phénomènes qui ont lieu dans l'invisible et qui de l'invisible eh bien, se traduisent concrètement dans le monde réel. On pourrait parfois rire de cela. J'étais récemment dans un contexte où il y a des gens du monde. Et dans ce contexte-là, je me suis retrouvé à devoir prêcher l'évangile à 5 personnes en même temps. Et parce qu'on ne peut pas passer incognito. Il y en a un qui a dit « Ouais, lui, il est pasteur. » Alors je me suis retrouvé à devoir expliquer pourquoi j'étais pasteur et qu'est-ce qu'était l'évangile. Et c'est bien que c'est quand ça ne vient pas de nous, mais qu'on nous donne le pupitre en quelque sorte. On nous donne la parole. Alléluia. Et voilà qu'au travers de ce qui pouvait être dit dans la conversation, un de ces hommes qui était là, qui pourtant est un blagueur, un vétéré, quelqu'un qui semble ne pas être sérieux, et il me dit « Depuis que je suis dans la maison que j'habite, Quand je suis à mon bureau près de l'ordinateur, il y a une présence qui me regarde. Et je sais que cette présence, elle ne m'aime pas beaucoup. Et en tout cas, je ressens une méchanceté. Et en tout cas, elle ne me veut pas du bien. Alors, je lui ai donné quelques clés pour se débarrasser de cette présence, bien qu'il ne soit pas chrétien. Mais c'est ainsi qu'il peut le devenir. Or, j'entends bien prendre de ses nouvelles parce qu'il habite à deux pas de chez moi. Donc, j'aurai l'occasion de le revoir. C'était des Ardennais, ceux à qui j'ai pu parler. Donc, j'aurai l'occasion de les revoir et de pouvoir développer à nouveau ce qui a pu être dit. Voyez, on pourrait rigoler comme ça, mais n'empêche qu'il y a des gens qui vivent des réalités terribles. Un jour, j'étais à l'hôpital, visitant ma grand-mère. Et alors qu'on me faisait sortir de la salle de sa chambre, je me suis retrouvé dans la salle d'attente, et il y avait à côté de moi un monsieur déjà d'un certain âge, une soixantaine d'années, 65 ans par là. Puis à un moment donné, cet homme-là, il se tourne vers moi et il me dit « Monsieur, je ne sais pas si vous allez me croire, mais il faut bien que je le dise à quelqu'un parce que personne ne veut me croire. On me donne des médicaments, mais je ne suis pas fou, monsieur. On m'a hospitalisé pendant une semaine et j'ai même envie de rester à l'hôpital parce que je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Je suis terrorisé. Monsieur, me dit-il, j'ai fait la guerre et il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Et pourtant, j'ai peur de rentrer chez moi parce qu'il y a une créature chez moi qui me persécute, qui me tourmente, qui se manifeste à moi visiblement, une créature effrayante. Et comme il me la décrivait, on aurait dit, vous savez, ces satyres qu'on dépeint dans les images un peu moyenâgeuses. Et cet homme-là, eh bien, de me dire qu'un jour, il allait simplement faire son besoin au WC, et puis quand il est redescendu, il regarde et il voit sa femme en train de regarder la télévision, et à côté d'elle, cette créature faisant des gestes obscènes. J'ai bien reconnu, pour avoir déjà entendu ces choses-là, que ce qu'il disait était une réalité. Et cet homme vivait quelque chose avec l'invisible, certainement que sa maison avait été habitée à cause de pratiques certainement impures. Et cet homme, eh bien, il était terrorisé à l'idée de rentrer chez lui. Et ce n'était pas la folie parce que c'était un homme posé, un homme très calme qui me parlait, un homme qui avait toute sa raison. L'occultisme est une réalité. Ce qu'on appelle bonne aventure inclut aussi l'usage du pendule, ce qu'on appelle la radiesthésie. Et ce qu'on doit toujours se demander, c'est quelle est la source qui est employée pour, eh bien, avoir des pouvoirs. Quelle est la source du pouvoir d'un sorcier? Quelle est la source du pouvoir d'un magnétiseur? Souvent, ils sont incapables de le dire. Quelle est la source de celui qui pratique le pendule? En quoi un pendule peut-il, en lui-même, déterminer l'avenir ou déterminer la recherche d'une situation ou d'une réponse? Il y a des choses encore plus évidentes comme le Ouija, une sorte de tablette sur laquelle des réponses, des questions ont lieu avec l'au-delà. La magie inclut la guérison ou l'envoi de maladies à travers des sorts, des enchantements, et ce n'est pas qu'en Afrique qu'on voit cela, même ici. J'ai connu une personne qui a été envoyée par un marabout dans la maison de mes parents pour l'acheter. Ah, il s'est trompé d'adresse, le marabout, il n'a pas bien vu ce jour-là. Parce que grâce à cela, on a annoncé l'évangile à ces gens-là. Et c'est révélé la présence démoniaque en eux. Alors, ils ne se sont pas convertis, mais n'empêche qu'ils n'ont pas acheté la maison non plus. Dieu les avait envoyés là, malgré le marabout. Et il s'est servi du marabout pour les envoyer chez nous, pour que l'évangile soit annoncé. L'occultisme, c'est ouvrir des portes dans notre vie, c'est donner des accès au diable dans notre vie. Un homme qui est venu un jour travailler chez moi, faire de l'électricité, me mettre tout aux normes, un homme raisonnable, un homme franchouillard, voyez un petit peu le français moyen, quoi. Un monsieur à qui j'aurais jamais même comme ça abordé les choses spirituelles d'emblée. En discutant comme ça, parce qu'on l'avait invité à notre table, cet homme-là, eh bien, va nous dire que chez lui, tous les jours, pratiquement, il voit des morts. Il voit pendant la nuit des êtres qui sont, semble-t-il, morts, des présences chez lui. Et quand je suis allé chez lui, sa fille m'a demandé si j'avais ressenti une présence. J'ai rien ressenti du tout, parce que je ne vois pas d'ailleurs ce que je ressentirais. Je pense que quand la lumière vient, ces puissances-là, elles s'enfuient. Et donc, on ne peut pas déterminer forcément toujours leur présence. Et nous avons annoncé l'évangile à cet homme. Il lui était arrivé bien des bricoles. Même à sa femme, ils étaient souvent blessés. Vous savez, le diable, il est cruel. Et quand on ouvre des portes, je ne sais pas qui chez eux avait ouvert des portes, mais en tout cas, quand on ouvre des portes, eh bien le diable, il vient pour tuer, égorger, détruire. Et souvent, ces gens-là étaient blessés. Lui, il avait été jeté de son vélo un jour dans un champ, culbuté par une voiture. Une autre fois, il est tombé, il s'est fait mal. Une fois, c'était sa femme qui, pendant longtemps, a eu le bras. Il lui arrivait toujours quelque chose, et j'ai trouvé ça vraiment mystérieux, cette répétition de traumatisme, de choc. Et au fond, quand vous regardez dans les évangiles, vous voyez le diable jeter des gens cruellement dans le feu, même des enfants. Hein. On voit cette propension du diable à faire du mal, à tordre les membres aussi de certaines personnes, comme cette femme qui était liée depuis 18 ans et qui était infirme, l'esprit d'infirmité avait tordu son dos. À travers l'occultisme, des puissances invisibles, appelées par le Nouveau Testament « esprit mauvais »,« esprit impur », tentent d'oppresser, d'impressionner, de lier et d'habiter le corps des êtres humains. Pour les tourmenter, certains jusqu'à la folie, cela existe. La Bible parle par exemple de cet homme, le gadarénien, cet habitant de Gadara. Cet homme qui vivait dans les sépulcres et qu'on était obligé de lier avec des chaînes parce qu'il était violent, parce que les démons qui s'emparaient de lui parfois se manifestaient dans la violence avec une force surhumaine et cet homme devait être maîtrisé par des liens, par des chaînes. Et bizarrement, quand Jésus est venu sur les rives de la vie de cet homme, finalement, vous vous rendez compte que, avec toutes les simagrées qu'on fait avec les démons, cet homme, il est venu se prosterner devant Jésus. Il n'est pas venu attaquer Jésus. Il s'est prosterné parce que la volonté de cet homme restait intacte, malgré les tourments, et il avait qu'une envie, c'est d'être délivré, c'est de vivre une autre vie, et dans sa lucidité, quand il l'était, eh bien, c'est ce qu'il voulait. Et il voulait que Dieu le libère. Et quand il a vu Jésus, il est venu et il s'est agenouillé. Et même les démons sont obligés de s'agenouiller devant le Christ. Et cet homme a été immédiatement, instantanément délivré par Jésus. Pourtant, il y avait une légion de démons qui était là. Et malgré tout le tumulte, tout le tourment, toute la vie impétueuse qui était en lui, cet homme a été délivré. La Bible nous dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Voilà l'œuvre de Jésus, l'œuvre de l'Évangile, qui est une œuvre de délivrance, une œuvre de libération. Il n'y a que Jésus qui puisse libérer des conséquences de l'occultisme. Nous devons toujours faire attention dans notre vie d'être humain, ne pas ouvrir des accès, des portes aux adversaires de notre âme, car la Bible parle d'hommes et de femmes qui étaient captifs de cachots ténébreux. La Bible montre que ces choses occultes sont une abomination. Ça peut même se traduire par quelque chose de dégoûtant. Le mot hébreu est « toeba » qui a donné « tohu bohu » que vous retrouvez quand la terre était informe et vide. La terre était « tohu bohu ». L'occultisme, c'est « toeba », c'est-à-dire c'est la confusion, c'est le désordre. Et quand vous allez dans la vie des gens qui vivent dans l'occultisme, vous remarquez que bien souvent, ils ne font même plus les choses rudimentaires de la vie, ne tournent plus leur pelouse. Souvent, leur maison tombe en ruine parce qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper des choses quotidiennes, parce qu'ils sont obnubilés par toutes sortes de choses que l'ennemi de leur âme met devant eux. Et c'était le cas de ces gens qui étaient venus chez moi. L'homme était tombé dans l'alcoolisme, dans la dépression, et c'est souvent un fruit de l'occultisme. La dépression, un esprit mélancolique. Et ils abandonnaient peu à peu leur maison à la... Un peu comme si on ne voulait plus mettre de l'ordre. Parce que quand il y a de chaos dans le cœur, quand il y a le chaos, la confusion dans notre cœur, eh bien, ça suit pour le reste, pour les choses concrètes, pour les choses matérielles. Il n'y a qu'un seul remède à l'occultisme, c'est la conversion et la repentance. Le discours de Pierre dans Actes 2, 38 et 39 est valable pour tous ceux qui pratiquent l'occultisme, d'ailleurs à l'époque où il a été prononcé, certainement que bien des hommes et des femmes s'adonnaient à ces pratiques. Et l'apôtre Pierre dira « Repentez-vous », c'est-à-dire faites demi-tour, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Seuls les gens qui se tournent vers Jésus-Christ peuvent être libérés. Nous avons connu une famille, la famille Alexandre, qui a donné l'évangéliste Franck Alexandre. Cette famille, la mère était une cartomancienne, et dans toute la famille se passaient des manifestations. Franck lui-même, il était projeté de son lit la nuit. Ces gens étaient dans la dépression, dans le désordre, dans la confusion. Et seul l'évangile a eu raison de tout cet emprisonnement spirituel. C'est l'évangile qui a donné la solution à cette famille. Et une chose en entraînant une autre famille, deux familles d'ailleurs, qui étaient liées, se sont retrouvées parce qu'ils avaient consulté le cabinet de Madame Alexandre. Et donc du coup, quand ils sont venus pour consulter, ils ont trouvé à la place l'évangile. Et toute une famille qui est encore aujourd'hui chrétienne, eh bien, s'est convertie et ont été libérés de la présence des démons. C'était des gens qui vivaient dans le désordre, même la nuit. Les démons leur parlaient, leur disaient, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, c'est-à-dire aller jeter des meubles dans la Meuse, vous ne serez pas laissés tranquilles et vous ne dormirez pas. Voilà ce que disaient les voix. Ces gens vivaient dans un univers démoniaque, un univers avec des entités invisibles présentes chez eux, comme vous et moi, nous sommes présents là. Et ils se sont convertis et ont été débarrassés de ces puissances. C'était des conversions en cascade à ce moment-là. La repentance et la confession de ce péché et le renoncement à ce péché sont nécessaires, car ce n'est pas seulement de pratiquer l'occultisme, vous l'avez lu, qui est en horreur à Dieu, qui est en abomination à Dieu. La Bible dit que c'est celui qui pratique cela qui est en horreur à l'Éternel, qui est en abomination à Dieu. C'est écrit expressément noir sur blanc. Les gens qui avaient des pouvoirs occultes à l'époque, des devins, des cartomanciens, des médiums, des magiciens, des sorciers, des enchanteurs, des guérisseurs, des magnétiseurs, des pendulistes, ont perdu leur pouvoir. Le plus grand exemple qu'on a, c'est dans Actes 16, verset 16, où nous lisons ce que dit Paul. « Un jour que nous nous rendions lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir. » Voyez. C'était une devineresse. Et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. Au fond, c'était une esclave, cette femme. Elle était exploitée à cause de ce don qu'elle avait reçu du diable. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Et oui, même les démons, ils disent des choses vraies. La Bible dit que les démons, ils croient, mais ils tremblent. Ils croient en Dieu, mais ils tremblent. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Quand ses maîtres virent disparaître tout espoir de gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les autorités. Elle a perdu instantanément ses pouvoirs. J'ai lu qu'un des plus puissants sorciers d'Alaska, le chaman Alualuk, c'était un homme qui allait jusqu'à ressusciter des païens d'entre les morts. Il s'est un jour converti et il a perdu tous ses pouvoirs magiques. Et il a admis que quand il faisait cela, quand il pratiquait la magie, il le faisait par le pouvoir du diable. Il connaissait la source de son pouvoir, il savait que c'était le diable. Mais il a dit une chose étonnante et intéressante et encourageante pour les chrétiens. Il a dit qu'il n'avait aucun pouvoir sur les chrétiens authentiques. Mais il a dit qu'il avait du pouvoir sur les chrétiens de nom, c'est-à-dire ceux qui font semblant d'être chrétiens, mais qui ne le sont pas, qui ne sont que des religieux. Mais il n'avait aucun pouvoir sur les authentiques chrétiens. Cela nous rappelle Jannès et Jambres, ces hommes qui ont voulu imiter Moïse quand il a transformé le bâton en serpent. Ils ont fait la même chose, mais le serpent de Moïse les a engloutis. Et la puissance de Jésus-Christ, la puissance de l'Évangile engloutit tout le monde occulte. C'est pour ça qu'il est écrit que nous avons reçu la puissance sur tous les scorpions, sur tout ce qui pourrait nuire à l'humanité. Et nous, rien ne pourra nous nuire, dit la parole de Dieu. Je vous ai donné la puissance, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Comme de nombreux récits du Nouveau Testament l'indiquent, c'est au nom de Jésus que les démons doivent être expulsés de gens manifestant un comportement démoniaque, que ce soit l'oppression, des tourments ou la possession. Il va sans dire donc que le rôle des chrétiens, c'est de témoigner et de prêcher la bonne nouvelle à tous ces hommes, à toutes ces femmes torturées par l'ennemi. Il y a dans cette ville des fois une femme, vous l'avez peut-être déjà vue, elle ressemble presque à un homme maintenant, autrefois c'était une femme, mais parce que le diable a pris de l'importance dans sa vie, c'est une femme possédée par des esprits impurs. Et souvent elle se manifeste dans les bars, dans les cafés, elle attaque les gens, et une fois elle a mis un coup de poing à quelqu'un qui l'embêtait, et je peux vous dire que l'autre il l'a senti, c'était un homme, il n'y est pas revenu, hein. Et cette femme est torturée, tourmentée, elle n'a plus toute sa raison, parfois elle fait des stages à Bel Air. Elle a même été une fois placée d'office parce qu'elle avait poursuivi des enfants avec un couteau pour les sacrifier. On retrouve le même fruit, vous voyez, ce qu'on a vu dans le Deutéronome, passer ses enfants en sacrifice, vous voyez. Il y a un psaume qui est le psaume 107, verset 10, qui dit « Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. » Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous en fer. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et il les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Amen. Nous avons un rôle à jouer dans le témoignage, dans la prédication de l'Évangile, pour que des hommes, des femmes qui connaissent ces choses et sont plus nombreux que nous ne le pensons, eh bien, puissent être libérés. Puissent voir la grâce de Dieu, la gloire de Jésus, la puissance de Jésus en action, la puissance de l'Évangile qui peut les libérer et surtout qui peut les sauver, parce que avant toute chose, c'est le salut. Ceux qui ont expulsé des démons, Jésus leur a dit « Réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie » et ce que nous voulons annoncer tout en expulsant les démons, c'est l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile du salut. L'Évangile qui permet aux hommes et aux femmes de ce monde d'avoir la vie éternelle, le pardon des péchés, la rencontre avec Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes, le réconciliateur entre le Père et ses créatures. Voilà ce que nous voulons annoncer et c'est ça qui va libérer les gens qui sont sous l'emprise de l'occultisme. En ce qui nous concerne, nous devons prêter attention au danger que représente le fait d'ouvrir des portes à des choses néfastes. Je ferai quand même... malgré tout cette parenthèse, que parfois dans le monde évangélique, il y a des gens qui ont ouvert des portes. Parce que quand on est attaché plus à la recherche du sensationnel et de l'émotionnel, il y a des gens, pourtant chrétiens, qui ont ouvert des portes à l'ennemi en s'adonnant à cette pratique émotionnaliste, à cette pratique des sentiments exacerbés, d'une sorte d'extase. Ce n'est pas la rencontre spirituelle avec Dieu. Les émotions ne sont que l'expression de ce qu'on ressent, mais quand on remplace le réveil spirituel par l'émotion, par la recherche des manifestations des sens, eh bien, on touche déjà à quelque chose qui n'est pas Dieu et on ouvre une porte vers l'occulte. C'est pour ça que dans certaines églises, il y a eu des divisions à cause de gens qui ont ouvert des portes vers l'occultisme. Un occultisme, bien sûr, déguisé, un occultisme qui est devenu presque, entre guillemets, évangélique, il faut le dire. Et cela existe. Des gens qui font tomber les autres à coups de... Hein, on sait ce que représentent ces gens, on sait ce qu'il y a derrière, parce que ça ne vient pas de Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire ça, mais la plupart du temps, quand il le fait, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin qu'on touche quelqu'un. Il est capable de renverser quelqu'un de son cheval, comme il l'a fait avec Paul. Il est capable de faire tomber quelqu'un sous sa puissance, avec un fruit qui va être ensuite durable, un fruit qui va être manifeste. Quelque chose qui va être de l'ordre de la repentance et surtout de la conversion, mais certainement pas avec un fruit uniquement émotionnel. C'est toute la différence. Alors prêtons attention aussi à cela. Ne déguisons pas l'Évangile en sorcellerie blanche, en quelque sorte, mais pratiquons la vérité. Respectons la parole de Dieu. Vivons les manifestations que la parole de Dieu nous invite à vivre avec le Seigneur. Nous avons assez à vivre de ce que dit la parole pour, eh bien... en avoir assez jusqu'à la fin de notre vie d'ailleurs. Et puis vous avez vu quand il y a question de repentance et de conversion, il est aussi question de la réception du don du Saint-Esprit, la promesse du Père pour tous ceux qui croient, pour pour tous ceux en aussi grand nombre qui vont croire en l'Évangile. Et chacune de ces personnes, frères et sœurs, qui avaient été dans l'occultisme et dont j'ai parlé et qui se sont converties, ont reçu très rapidement le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'ils en avaient besoin pour sortir de tout ce monde occulte. C'est évident qu'il faut passer d'un monde à l'autre. Et la Bible nous dit que déjà la conversion nous amène dans un transport des ténèbres à la lumière, du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Et le baptême dans le Saint-Esprit, baptême de puissance dans le monde de Dieu, cette fois-ci dans le royaume de Dieu, est nécessaire pour de telles personnes. Et c'est ce qui a permis à ces gens de se développer dans leur vie spirituelle, dans leur vie chrétienne, c'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils en avaient réellement besoin et ça a suivi immédiatement de très près la conversion. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à comprendre tous les dangers de ce monde occulte, de ce monde caché, de ce monde qui se déguise. La Bible nous dit aussi que Satan se déguise en ange de lumière et ses ministres en ministres de justice. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Je n'ai fait qu'effleurer le sujet, évidemment, ce matin, mais il y aurait beaucoup de choses à dire et nous aurons peut-être un jour l'occasion, pourquoi pas, de développer une sorte de séminaire sur la question. Ça peut être intéressant. Et puis d'approfondir un peu ce que la Bible dit à ce sujet-là. Mais nous avons un temps limité et on va prier pour que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs.